Chapitre 10. La mission du fou. En temps de paix, on restreignait l'enseignement de l'art aux membres de la famille royale, afin d'assurer l'exclusivité de cette magie et de réduire les risques de l'avoir employée contre le roi. Ainsi, quand Galen entra en apprentissage auprès de maîtresses sollicitées, ses devoirs consistaient à la seconder pour achever la formation de chevalerie et vérité. Personne d'autre n'apprenait l'art à l'époque. Royal, enfant délicat, avait été jugé par sa mère trop chétif pour supporter les rigueurs de cet enseignement. C'est pourquoi, à la suite de la mort prématurée de Sollicité, Galen prit le titre de maître d'art, mais n'eut guère à faire. Certains considéreraient d'ailleurs que son temps d'apprentissage était insuffisant pour constituer l'initiation complète d'un maître d'art. D'autres ont déclaré depuis qu'il n'avait jamais possédé la puissance nécessaire pour faire un véritable maître. Quoi qu'il en soit, pendant des années, il n'eut jamais l'occasion de faire ses preuves et de démontrer la fausseté de ses critiques. Il n'y avait ni jeune prince ni jeune princesse à former au cours des années où Galen fut maître d'art. C'est seulement à la suite des raids des pirates rouges que l'on décida d'agrandir le cercle des artiseurs. Il n'existait plus de clan digne de ce nom depuis bien longtemps. La tradition nous révèle que, lors de heures précédentes avec les Outriliens, il n'était pas rare de voir trois, et quelquefois quatre clans, travailler en même temps. Ils étaient généralement formés de 6 ou 8 membres mutuellement cooptés pour leur aptitude à se lier les uns aux autres, et dont l'un, au moins, possédait une forte affinité avec le monarque régnant. Ce membre clé répétait directement au souverain tout ce que ses compagnons lui transmettaient, s'il faisait partie d'un clan de messagerie ou de collecte de renseignements. D'autres clans avaient pour fonction d'accumuler de l'énergie et de mettre leurs ressources d'artiseurs à la disposition du roi selon ses besoins. Le membre clé de ces clans portait souvent le titre d'homme ou de femme du roi ou de la reine. En de très rares cas, ce personnage existait en dehors de tout clan ou formation, seulement en tant qu'individu doué d'une si forte affinité avec le souverain que celui-ci pouvait puiser dans son énergie, en général par simple contact physique. De lui, le roi ou la reine pouvait tirer l'endurance nécessaire pour longuement artiser. Par tradition, un clan prenait le nom de son membre clé, ce dont nous avons des exemples célèbres, tels le clan de Feu Croisé. Pour créer son premier et unique clan, Galen choisit de ne se plier à aucune coutume. Son groupe prit le nom du maître d'art qui l'avait façonné et le conserva même après sa mort. Plutôt que d'assembler un vivier d'artiseurs et d'en laisser émerger un clan, Galen lui-même tria ceux qui en deviendraient membres. En conséquence, il leur manquait l'unité interne des groupes des légendes et leur affinité la plus profonde allait au maître d'art plus qu'au roi. Ainsi, le membre clé, Auguste à l'origine, adressait des rapports complets autant à Galen qu'au roi subtil et au roi servant vérité. Lorsque Galen mourut et que l'art d'Auguste fut anéanti, Soren prit la fonction de membre clé du clan de Galen. Les autres survivants du groupe étaient Justin, Guillot, Carode et Ronce. La nuit, je courais comme un loup. La première fois, je crus que je faisais un rêve particulièrement réaliste. La vaste étendue de neige blanche que l'ombre des arbres maculait d'encre noire, les odeurs fugitives transportées par le vent, la joie ridicule de bondir et de fuir derrière les musaraignes qui s'aventuraient hors de leur terrier d'hiver. Je me réveillais l'esprit clair et de bonne humeur. Mais la nuit suivante, je fis un rêve tout aussi réaliste. Je compris alors que, lorsque j'isolais mon art pour ne pas émettre inconsciemment, et par là que je m'empêchais de rêver de Molly, je m'ouvrais tout grand aux pensées nocturnes du loup. Là se trouvait tout un royaume dans lequel vérité ni aucun artiseur ne pouvait me suivre. C'était un monde où n'existait ni intrigue de cour, ni complot, ni souci, ni projet. Mon loup vivait dans le présent. Son esprit était vide des accumulations de détails des souvenirs. D'un jour à l'autre, il ne conservait que l'indispensable à sa survie. Il ne se rappelait pas combien de musaraignes il avait tuées 2 jours plus tôt, mais il gardait en mémoire des éléments plus généraux, tels que les sentes que préféraient les lapins ou les endroits où le ruisseau coulait assez vite pour ne jamais geler. Cependant, cela, c'était la situation après que je lui eus appris à chasser. Au début, ce fut moins brillant. Je continuai à me lever tôt pour lui apporter à manger, en me répétant qu'il ne s'agissait que d'un petit pan de ma vie que je me réservais. Tout se passait comme l'avait dit le loup. Je ne faisais rien. J'étais simplement. D'ailleurs, je m'étais promis de ne pas laisser notre rencontre se transformer en lien plein et entier. Bientôt, très bientôt, il serait capable de chasser tout seul, et je le libérerais pour qu'il s'en aille. Parfois, je me disais que je ne le laissais entrer dans mes rêves que pour mieux lui enseigner la chasse, afin de le rendre plus vite à la liberté. J'évitais de songer à ce que Burick pourrait en penser. Un jour, de retour d'une de mes expéditions matinales, je tombai sur deux gardes, un homme et une femme qui s'exerçaient au bâton dans la cour des cuisines. Tout à le temps, ils échangeaient des coups, esquivaient et s'envoyaient des insultes bon enfant dans l'air froid et limpide. Je ne reconnus pas l'homme, et l'espace d'un instant, je crus qu'il s'agissait d'étrangers au château. Puis la femme m'aperçut.
« Oh, fils de chevalerie, il faut que je te parle !»
cria-t-elle sans cesser de brandir son bâton. Je la regardai en essayant de la remettre. Son adversaire para maladroitement un coup, et elle le frappa durement. Pendant qu'il sautillait sur place, elle recula gracieusement en éclatant de rire. Un hennissement suraigu reconnaissable entre mille.
« Sifflet ? »
fis-je incrédule. La femme m'adressa son sourire brèche-dents bien connu, donna un coup sonore au bâton de son adversaire et recula en dansant.
« Oui ? »
répondit-elle, le souffle court. Son partenaire d'entraînement, la voyant occupée, baissa courtoisement son arme. Aussitôt, Sifflet revint à la charge, mais avec une telle adresse qu'on eût dit de la nonchalance, l'homme releva son bâton et bloqua l'attaque. Encore une fois, Sifflet éclata de rire, une main en l'air en signe de trêve.
« Oui, » répéta-t-elle en se tournant vers moi. « Je suis venu, enfin, on m'a choisi pour venir te demander un service. »
De la main, j'indiquai les vêtements qu'elle portait. « Je ne comprends pas. Tu as quitté la garde de vérité ?» Elle haussa les épaules, mais je vis bien que ma question l'enchantait.
« Pas pour aller très loin. Garde de la reine. » L'insigne de la renarde, tu vois ? »
Elle tira sur le devant de sa courte veste blanche pour tendre le tissu. Une bonne laine faite maison, bien solide, sur laquelle je vis broder une renarde blanche, l'écrou découvert sur fond pourpre, pourpre comme ces épaisses choses de laine. Le bas en était enfoncé dans des bottes qui lui montaient aux genoux. La tenue de son adversaire était en tout point pareille, la garde de la reine. À la lumière de l'aventure de Kétriken, l'uniforme prenait son sens.
Vérité a jugé qu'il lui fallait une garde personnelle ?
Demandai-je ravi. Le sourire de Sifflet s'effaça un peu.
Pas exactement, fit-elle, sur quoi elle se raidit comme pour me faire un rapport. On a décidé qu'il fallait une garde de la reine, moi et quelques autres qui l'ont accompagné l'autre jour. On s'est mis à parler entre nous de tout après. Comment elle s'était comportée avec les forgisés, et ensuite ici, et aussi qu'elle était arrivée à Castelserre sans connaître personne. Alors on s'est dit qu'il faudrait obtenir la permission de former une garde pour elle. Mais personne ne savait vraiment comment s'y prendre. On savait que c'était nécessaire, mais personne n'avait l'air de s'en occuper. Et puis, la semaine dernière, je t'ai entendu te mettre en rogne parce qu'elle était partie à pied et toute seule, sans escorte. Qu'est-ce que tu leur en as dit ? J'étais dans la pièce à côté et j'ai rien manqué.
Je retins la protestation qui me venait aux lèvres et hochai sèchement la tête. Sifflet poursuivit.
« Alors, on s'est mis d'accord. Ceux qui avaient envie de porter le blanc et le violet l'ont dit, tout simplement. Ça faisait juste la moitié de la garde. De toute manière, il était temps qu'on fasse rentrer un peu de sang neuf. La garde de vérité commençait à prendre de la bouteille et à se ramollir à force de rester au château. Donc on s'est reformé en faisant monter en grade certains à qui ça aurait dû arriver depuis longtemps s'il y avait eu des places à prendre, et en recrutant pour boucher quelques trous. Ça a marché comme sur des roulettes. Les nouveaux venus vont nous permettre de nous affûter un peu pendant qu'on les formera. La reine aura sa garde à elle quand elle en voudra une, ou quand elle en aura besoin. »
« Je vois.
Je commençais à me sentir mal à l'aise. « Et quel est le service que vous attendez de moi ?»«
Que tu expliques notre idée à vérité. Que tu dises à la reine qu'elle a une garde. »
Elle parlait avec la plus grande simplicité.
« Ça confine aux parjures, » répondis-je tout aussi simplement.
« Des soldats de la propre garde de vérité qui rejettent ses couleurs pour prendre celles de sa reine. »
« On peut voir ça comme ça, on peut le présenter comme ça. »
Elle me regarda dans les yeux. Son sourire avait disparu.
« Mais tu sais que c'est pas ça. Il fallait le faire. Ton chevalerie s'en serait rendu compte. Il aurait même créé une garde avant que la reine arrive des montagnes. Mais le roi servant vérité... Non, on n'est pas parjure envers lui. On l'a servi comme il faut, parce qu'on l'aime. Et on continue. On l'a toujours protégé. Et on s'est simplement reformé autrement pour le protéger encore mieux. Il a une bonne reine, voilà ce qu'on pense. On veut pas qu'il la perde, c'est tout. C'est pas pour ça qu'on aime moins notre roi servant, tu le sais bien.
En effet, mais tout de même. Je détournais les yeux, secouais la tête et m'efforçais de réfléchir. Pourquoi moi ? Se demandait une partie de moi-même avec colère. Et puis, je compris qu'à l'instant où j'avais perdu mon sang-froid et réprimander les gardes pour n'avoir pas protégé leur reine, je m'étais porté volontaire. Burik m'avait déjà prévenu que j'avais tendance à oublier ma place. J'en parlerai au roi servant vérité, et à la reine, s'il est d'accord. Le sourire de Sifflet revint aussitôt.
« Je savais que tu ferais ça pour nous. Merci, Fitz. »
Et tout soudain, elle repartit en virevoltant, le bâton brandi vers son adversaire qui ne put que reculer. Avec un soupir, je repris mon chemin. Je pensais qu'à cette heure-ci, Molly allait venir chercher de l'eau, et j'avais espéré l'apercevoir. Mais elle n'était pas apparue et j'étais déçu. Je savais que je n'aurais pas dû jouer ce genre de petit jeu, mais la tentation était parfois trop forte. Je quittai la cour. Ces derniers jours, c'était une forme particulière de torture que je m'infligeais. Je m'interdisais de revoir Molly, mais j'étais incapable de résister à l'envie de la filer. C'est ainsi que j'arrivais dans les cuisines un instant après qu'elle en était sortie et m'imaginais pouvoir encore sentir son parfum dans l'air. Ou encore que je m'installais pour la soirée dans la grande salle en essayant de me placer là d'où je pourrais l'observer à la dérobée. Quel que soit le divertissement proposé, chanson, poésie ou marionnette, mes yeux finissaient toujours par se porter là où se tenait Molly. Elle avait toujours l'air digne et réservée dans son corsage et sa jupe bleu foncé, et elle ne m'adressait jamais le moindre coup d'œil. Elle parlait avec les autres femmes de la forteresse, où les rares soirs où Patience descendait, elle s'asseyait à côté d'elle et la servait avec une attention qui niait jusqu'à mon existence. Quelquefois, j'avais l'impression que notre brève étreinte n'avait été qu'un rêve. Mais la nuit, revenu dans ma chambre, je prenais la chemise que j'avais cachée au fond de mon coffre à vêtements, et en l'approchant de mon visage, je croyais encore tenir une faible trace de son parfum. Alors mon tourment m'était plus supportable. Le temps avait passé depuis la crémation des forgisés sur leur bûcher funéraire. Outre la formation de la garde de la reine, d'autres changements se préparaient, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du château. Deux maîtres constructeurs de navires avaient spontanément offert leur service au chantier naval, au grand ravissement de vérité. Mais la reine Kétriken en avait été émue encore bien davantage, car c'est à elle qu'il s'était présenté, en disant qu'il souhaitait se rendre utile. Leur apprenti les accompagnait et avait grossi les rangs de ceux qui œuvraient au chantier. Dorénavant, les lampes y brûlaient dès avant l'aube et bien après le coucher du soleil, et les travaux avançaient à grands pas. Du coup, Vérité s'absentait d'autant plus de Castelserre, et Kétriken, lorsque j'allais la voir, était plus abattue que jamais. C'est en vain que je lui proposais livre et sortie. Elle passait le plus clair de son temps assise à son métier à tisser, auquel elle touchait à peine. Chaque jour un peu plus pâle et apathique. Sa tristesse affectait les dames qui l'accompagnaient, si bien qu'une visite chez elle avait toute la gaieté d'une veillée funèbre. Je ne m'attendais pas à trouver Vérité dans son étude, et je ne fus pas déçu. Il était au hangar à bateau, comme d'habitude. Je priais Charim de demander qu'on m'appelle lorsque le roi servant aurait du temps à me consacrer. Puis, résolu à m'occuper et à suivre le conseil d'Imbre, je retournai dans ma chambre, où je me fournis de dés et de baguettes à encoche avant de me rendre aux appartements de la reine. J'avais décidé de lui enseigner certains des jeux de hasard dont étaient friands les dames et les seigneurs, dans l'espoir qu'elle élargirait le champ de ses divertissements. J'espérais également, à un moindre degré, que ces jeux l'inciteraient à fréquenter davantage de gens et à dépendre moins de ma compagnie. Son humeur lugubre commençait à me peser, au point que je souhaitais souvent de tout mon cœur me trouver loin d'elle.
« Apprends-lui d'abord à tricher, mais fais-lui croire que c'est la façon normale de jouer. Dis-lui que les règles autorisent les feintes. Quelques tours d'escamotage faciles à enseigner, et elle pourrait vider les poches de Royal une ou deux fois avant qu'il ose la soupçonner. Et à ce moment-là, que pourrait-il faire ? Accuser la dame de Castelserre de tricher au dé ?»
C'était le fou, naturellement, qui marchait à côté de moi, son sceptre à tête de rat tressautant légèrement sur son épaule. Je n'eus pas un tressaillement, mais il sut qu'une fois de plus, il m'avait eu par surprise. Ses yeux pétillaient d'amusement. Notre reine servante risque de ne pas apprécier que je la trompe. Pourquoi ne pas m'accompagner plutôt pour la dérider un peu ? Moi, je remise mes dés, et toi, tu jongles pour elle.
« Jongler pour elle ? Allons, fils, je ne fais que ça toute la journée, et toi, tu n'y vois que bouffonnerie. Tu observes mon travail, et tu dis que c'est un jeu, tandis que je te regarde travailler d'arrache-pied à jouer à des jeux que tu n'as pas inventés toi-même. » Suis le conseil d'un fou. Apprends à la dame non les dés, mais les devinettes, et vous y gagnerez tous deux en sagesse.
Les devinettes, c'est un jeu de Terrilleville, non?
On devrait y jouer aussi à Castelserre ces temps-ci. Tiens, réponds à celle-ci si tu le peux. Comment appeler quelque chose qu'on ne sait pas comment appeler?
Je n'ai jamais été doué pour ce jeu fou.
Comme tous ceux de ta lignée, d'après ce que j'ai entendu dire. Alors réponds à celle-ci. Qu'est-ce qu'il y a des ailes dans le manuscrit de Subtil, une langue de feu dans le livre de vérité, des yeux d'argent dans les vélins de Rel et des écailles d'or dans ta chambre?
C'est une devinette? Il me regarda d'un air navré.
Non, une devinette. C'est ce que je viens de te poser. C'est un ancien. Et la première devinette voulait dire « Comment en appeler un ?»
Je ralentis le pas. Je le dévisageais, mais il était toujours difficile de croiser son regard. C'est une devinette ou une vraie question ?
Oui.
Le fou avait la mine grave. Je m'arrêtai brusquement, complètement perdu, et lui adressai un regard noir. En réponse, il leva son sceptre nez à nez avec lui-même. Le rat et lui semblaient se faire des grimaces.
« Tu vois, attends, il n'en sait pas davantage que son oncle ni son grand-père. Aucun d'eux ne sait comment appeler un ancien. »«
Par là, » dis-je impulsivement. Le fou me scruta d'un air étrange.
« Tu sais ça ?»
J'imagine que c'est le moyen.
Pourquoi?
Je l'ignore. D'ailleurs, maintenant que j'y pense, ça me paraît peu probable. Le roi Sagesse a fait un long voyage pour trouver les anciens. À quoi bon, s'il pouvait simplement les artiser?
En effet, mais parfois, il y a de la justesse dans l'impétuosité. Alors, débrouille-moi cette devinette, mon gars. Un roi est vivant. Un prince de même, et tous deux maîtrisent l'art. Mais où sont ceux qui ont été formés en même temps que le roi et ceux d'avant? Comment en est-on arrivé à cette indigence d'artiseur en un temps où l'on a impérieusement besoin d'eux?
On forme peu d'artiseurs en temps de paix. Galen n'avait pas jugé utile de prendre de disciples avant sa dernière année de vie, et le clan qu'il a créé... Je me tus soudain. Bien que le couloir fût désert, j'avais perdu toute envie de parler de ce sujet. J'avais toujours gardé pour moi tout ce que vérité avait pu me révéler sur l'art. Le fou se mit subitement à cabrioler autour de moi.
« Si la botte ne va pas, impossible de la porter, quel que soit le cordonnier qui l'a faite !»
déclara-t-il. J'acquiesçai à contre-cœur. « Exactement. »
Et le cordonnier est mort. Comme c'est triste
plus triste que viande chaude sur la table et vin rouge dans ton verre. Mais le cordonnier, lui aussi, avait été formé par un autre.
Sollicité. Mais elle est morte, elle aussi.
Ah, mais pas subtil, ni vérité. Il me semble que s'il en reste deux créés par elle qui respirent encore, il devrait y en avoir d'autres. Où sont-ils?
Je haussai les épaules. Disparu, vieux, mort, que sais-je? Je refoulai mon impatience et me contraignis à réfléchir à la question. La sœur du roi subtil, Allègre, la mère d'Auguste, elle a peut-être été formée, mais elle est morte depuis longtemps. Le père de Subtil, le roi Bonté, a été le dernier à disposer d'un clan, je crois. Mais bien peu de gens de cette génération sont encore en vie. Je m'interrompis. Vérité m'avait dit un jour que Sollicité avait enseigné l'art à autant d'élèves doués qu'elle avait pu en trouver. Il en restait sûrement de vivants. Il ne devait guère avoir plus d'une dizaine d'années de plus que Vérité.
« Un trop grand nombre sont morts, si tu me poses la question. Je le sais, crois-moi, »
dit le fou en réponse à mes réflexions. Je le regardai d'un œil inexpressif. Il me tira la langue, s'éloigna un peu en dansant, puis observa son sceptre et gratta affectueusement son rat sous le menton.
« Tu vois, raton, je te l'avais bien dit, aucun d'entre eux ne sait rien. Aucun n'est assez intelligent pour demander. »
« Fou, tu ne peux donc jamais t'exprimer clairement ? » m'écriai-je, exaspéré. Il se figea comme si je l'avais frappé. En pleine pirouette, il reposa les talons au sol et se raidit comme une statue.
« Quel intérêt ? » fit-il d'un ton mesuré. « M'écouterais-tu si je ne te parlais pas par énigme ? Cela t'obligerait-il à réfléchir, à te suspendre à mes moindres mots et à les ruminer plus tard dans ta chambre? Très bien. Je vais essayer. Connais-tu la comptine « Six sages s'en furent à Jahampe »
J'acquiesçai, encore plus perdu qu'avant.
Récite-la-moi.
Six sages s'en furent à Jahampe, gravirent un mont et n'en descendirent pas, se pétrifièrent et puis s'enfuirent. Le reste de la vieille comptine m'échappa soudain. Je ne me souviens plus. De toute manière, les paroles ne veulent rien dire. Ce n'est qu'une scie qu'on n'arrive pas à se sortir de la tête.
Ce qui explique, naturellement, qu'elle fasse partie des poèmes du savoir traditionnel,
conclut le fou. Je n'en sais rien. Je me sentais soudain excessivement irrité.
Fou, tu recommences, tu t'exprimes toujours par énigme. Tu prétends parler clairement, mais ta vérité m'échappe. Les énigmes et les devinettes, mon Fitsune, sont là pour faire réfléchir, pour faire découvrir de nouvelles vérités dans de vieilles lunes. Mais puisqu'il en est ainsi, ta cervelle m'échappe, comment l'atteindre? Peut-être devrais-je venir chanter sous ta fenêtre à la nuit tombée. « Prince bâtard, Fitz mon tout doux, tu perds ton temps et prends des coups, et tu t'efforces de freiner quand tu devrais accélérer !»
Il avait mis un genou en terre et pinçait des cordes imaginaires sur son sceptre. Il chantait à pleine poitrine, et plutôt bien finalement. L'air de sa chanson était celui d'une ballade d'amour populaire. Il me regarda et mit un sourire théâtral, se passa la langue sur les lèvres et reprit avec une expression désespérée.
« Pourquoi l'invoyant jamais ne voit-on loin et s'arrête à ce qu'il a juste sous la main? La côte est assiégée et ton peuple est à gare. J'avertis et je presse, on me répond plus tard. Petit prince bâtard, oh, fils au mont tout beau, attendras-tu longtemps qu'on te coupe en morceaux ?»
Une servante s'arrêta, surprise, pour écouter. Un page passa la tête par la porte d'une salle voisine, un sourire jusqu'aux oreilles. Je sentis le rouge commencer à monter à mes joues, car le fou levait vers moi un visage enamouré. Je voulus m'éloigner de lui d'un air dégagé, mais il me suivit à genoux en s'accrochant à ma manche, et je dus m'immobiliser plutôt que de me lancer dans une bataille grotesque pour me libérer. Je me sentais ridicule. Le fou me fit un sourire minaudier, et j'entendis le page glousser de rire, tandis que plus loin, dans le couloir, deux voix amusées murmuraient. Je refusais de lever les yeux pour voir qui se réjouissait ainsi de mon embarras. Le fou m'envoya un baiser, puis reprit sa chanson, dans un murmure confidentiel.
« Le destin pourra-t-il si aisément t'abattre? Non, si te sers de l'art afin de le combattre. Mande tes alliés, cherche les maîtres d'art, emploie tous les moyens que tu mis au hangar. Il est un avenir encore informe et vide, fondé par tes passions violentes et avides. Utilise ta tête afin de l'emporter, et tu pourras ainsi sauver les six duchés. C'est ce dont te supplie un fou agenouillé. Empêche les ténèbres de nous fouailler. Évite au peuple de tomber en putréscence. Ô toi, en qui la vie a placé sa confiance. »
Il se tut un instant, puis conclut joyeusement et à pleine voix.
« Mais si tu fais celui qui n'a pas entendu et néglige ma voix comme paix de ton cul, voici la révérence à mon sens qui t'est due. Régale-toi les yeux de ce que peu ont vu !»
Il me lâcha soudain la manche et s'éloigna de moi en faisant un saut périlleux qui s'acheva, j'ignore comment, par la présentation de ses fesses nues. Elles étaient d'une pâleur choquante, et je ne pus cacher ma stupéfaction ni mon dépit. Le fou se remit debout d'un bond, convenablement vêtu cette fois, et Raton, au bout de son sceptre, s'inclina modestement devant le public qui s'était arrêté pour assister à mon humiliation. Il y eut un éclat de rire général et quelques applaudissements. Sa balade improvisée m'avait laissé sans voix. Je détournai le regard et voulus contourner le fou. Mais il me bloqua de nouveau le passage, prit une expression austère et s'adressa au rieur.
« Fi donc, honte à vous que je vois si gai, rire et montrer du doigt un garçon au cœur brisé. Ignorez-vous donc que le Fitz a perdu un être cher? Oh, il rougit pour dissimuler son chagrin, mais elle est descendue dans la tombe en laissant sa passion inassouvie. Pucelle à la virginité opiniâtre et à la flatulence virulente, dame Tain n'est plus de sa pestilence. À n'en point douter, l'on pourrait dire qu'elle la tenait de manger des viandes gâtées, mais gâtées. La viande exhale des effluves méphitiques afin d'empêcher qu'on la consomme. On peut en dire autant de dame Tain. Aussi peut-être ne se sentait-elle pas où y voyait-elle le parfum de ses doigts? Ne pleure point, pauvre Fitz, il t'en sera trouvé une autre. Par le crâne de Sire Raton, je jure de m'y employer dès aujourd'hui. Et lors, hâte-toi de vaquer à tes devoirs, car j'ai délaissé les miens bien trop longtemps. Adieu, pauvre Fitz, brave, triste cœur, faire si bonne figure contre ta désolation. Pauvre jeune homme inconsolable, ah, Fitz, pauvre, pauvre Fitz !»
Et il s'éloigna dans le couloir en hochant la tête d'un air accablé, et en discutant avec Raton pour décider quelle douairière il devrait courtiser en mon nom. Je le regardais partir, abasourdi. Je n'arrivais pas à croire qu'il ait pu me donner ainsi en spectacle, et j'éprouvais un sentiment de trahison. Il avait la langue acérée et le tempérament volage, je le savais, mais je n'aurais jamais pensé être un jour la victime publique d'une de ces plaisanteries. J'espérais qu'il allait se retourner pour faire un dernier commentaire qui m'expliquerait ce qui venait de se passer, mais il n'en fit rien. Lorsqu'il tourna le coin du couloir, je compris que mon supplice avait pris fin, et je repris mon chemin, à la fois bouillant de colère et plongé dans des abîmes de perplexité. Ces vers de Mirliton s'étaient gravés dans ma mémoire, et je me doutais que j'allais passer les prochains jours à ruminer les paroles de sa chanson d'amour pour essayer d'en extraire le sens. Mais dame Tain, il n'aurait jamais parlé de sa disparition si elle n'était pas vraie. Cependant, Pourquoi Humbre aurait-il fait mourir ainsi son personnage public? De quelle pauvre femme allait-on, sous l'identité de Dame-Tin, emporter la dépouille chez des parents éloignés pour l'enterrer? Était-ce la façon qu'Humbre avait trouvé de commencer son voyage, de sortir de Castelserre sans se faire voir? Mais, encore une fois, quel besoin de la faire mourir? Pour faire croire à Royal que sa tentative d'empoisonnement avait réussi? Dans quel but? Ainsi plongé dans mes réflexions, j'arrivais devant les portes des appartements de Ketriken. Je m'étais arrêté un instant dans le couloir afin de récupérer mon sang-froid et de reprendre une expression plus composée, quand soudain la porte en face de celle de la reine s'ouvrit à la volée, et Royal, sortant à grands pas, me heurta. Je titubais de côté, et avant que j'aie le temps de me ressaisir, il me dit avec superbe « Ce n'est rien, Fitz, je ne te demanderai pas d'excuses dans l'affliction où tu es. » Et il rectifia sa tenue, tandis que de jeunes courtisans émergeaient à leur tour de ses appartements, agités de petits rires nerveux. Le prince leur sourit, puis se pencha vers moi pour me demander à mi-voix et d'un ton venimeux « Qui vas-tu bien pouvoir flagorner, maintenant que cette vieille putain de Tin est morte ? Enfin, tu trouveras sûrement une autre vieille peau pour te câliner, à moins que tu ne sois ici pour en boboliner une plus jeune. » Et il eut le front de me sourire avant de tourner les talons et de s'en aller majestueusement dans une envolée de manches, suivi de ses trois adulateurs. L'insulte faite à la reine fit monter en moi une rage noire. Elle m'envahit avec une soudaineté inouïe et je la sentis gonfler ma poitrine et ma gorge. Une force effrayante me parcourut et ma lèvre supérieure se retroussa pour découvrir mes dents. De très loin, je perçus. « Quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Tu !» Je fis un pas. Le suivant aurait été un bond. Et je sais que mes dents se seraient enfoncées là où la gorge s'attache à l'épaule. Mais, Fitz Chevalerie ? Dit une voix empreinte de surprise. Molly ? Je me retournai vers elle, et mes émotions basculèrent brutalement de la rage au ravissement. Mais tout aussi vite, elle s'écarta en disant « Pardon, monseigneur ». Et elle passa. Ses yeux étaient baissés, ses manières celles d'une servante. « Molly ! » Je la suivis et elle s'arrêta. Quand elle se tourna vers moi, son visage comme sa voix n'exprimait rien. « Messire, avez-vous une commission à me confier ?»«
Une commission ?»
Naturellement. Je jetai un coup d'œil alentour, mais le couloir était désert. Je m'approchai d'elle, baissai le ton pour n'être entendu que d'elle.
« Non, tu me manques affreusement, c'est tout. Molly, je... »«
Ce n'est pas bien séant, messire. Je vous prie de m'excuser. » Elle fit demi-tour, fière et calme, et s'éloigna.
« Mais qu'ai-je donc fait ? »
demandai-je, à la fois en colère et atterré. Je n'attendais pas vraiment de réponse, mais elle s'arrêta encore une fois. Son dos était raide, sa tête droite sous sa coiffe de dentelle. Sans se retourner, elle dit à mi-voix.
« Rien. Vous n'avez rien fait, monseigneur. Absolument rien.
« Molly !» protestai-je, mais elle passa l'angle du couloir et disparut. Je restai le regard fixe, et au bout d'un moment, j'aperçus que j'émettais un son à mi-chemin entre un gémissement et un grondement.
« Si on allait plutôt chasser ?»«
Peut-être, » répondis-je, et j'en étais le premier surpris. « Peut-être serait-ce le mieux. Aller chasser, tuer, manger, dormir, et rien de plus. »«
Pourquoi pas maintenant ?»«
Je ne sais pas. » Je me calmai et frappai à la porte de Ketriken. Ce fut la petite Romarin qui m'ouvrit et m'invita à entrer avec un sourire. Une fois dans les lieux, je compris pourquoi Molly était venue. Ketriken était occupée à humer une grosse bougie verte. Plusieurs autres trônaient sur la table. « De la baie de Laurier ?» dis-je. Ketriken leva les yeux, le sourire aux lèvres.
« Fitz Chevalerie, bienvenue. Entrez, asseyez-vous. Puis-je vous offrir à manger ? Du vin ?»
Sans bouger, je la dévisageais. C'était une véritable métamorphose. Je percevais sa force et je sus qu'elle se tenait au centre d'elle-même. Elle portait une tunique et des jambières gris clair. Ses cheveux étaient coiffés comme à l'ordinaire, sa parure un simple collier en perles de pierres vertes et bleues. Mais ce n'était plus la femme que j'avais ramenée à Castelserre quelques jours auparavant. Celle-là était angoissée, furieuse, blessée, égarée. Cette Ketriken-ci irradiait la sérénité. « Ma reine ? » fis-je, hésitant. « Ketriken, » me reprit-elle calmement. Elle se déplaçait dans la pièce pour disposer des bougies sur des étagères. Il y avait presque du défi dans son laconisme. J'avançais dans son salon. Elle et Romarin en étaient les seules occupantes. Un jour, Vérité s'était plaint à moi que les appartements de son épouse avaient la précision d'un camp militaire. Ce n'était pas une exagération. Le sobre mobilier était d'une propreté immaculée. Les lourdes tentures et les épais tapis qui habillaient la plupart des êtres de Castelserre manquaient ici. De simples paillasses couvraient le sol, et sur le cadre des paravents étaient tendus de grands parchemins délicatement décorés d'arbres et de branches fleuries. Nulle part le moindre désordre. Je ne saurais mieux décrire la tranquillité qui régnait dans ce lieu qu'en disant que tout y était achevé et rangé, ou pas encore commencé. Je m'étais présenté en proie à des émotions conflictuelles, mais à présent, immobile et muet, ma respiration se calmait et mon cœur s'apaisait. Grâce à des paravents de parchemin, un angle de la pièce avait été transformé en alcôve, décoré d'un tapis de laine verte et meublé de bancs bas et rembourrés comme j'en avais vu dans les montagnes. Ketriken plaça la bougie verte à la baie de laurier derrière l'un des paravents et l'alluma avec un brandon pris dans l'âtre. La flamme dansante insuffla la vie et la chaleur d'un lever de soleil à la scène peinte. Ketriken en fit le tour pour s'asseoir sur l'un des bancs de l'alcôve. Elle désigna le siège en face du sien. « Voulez-vous me rejoindre ?» J'obéis. Le paravent doucement éclairé, l'illusion d'une petite pièce intime et le parfum suave de la baie de laurier, tout cela baignait dans la douceur. Le siège bas était étonnamment confortable. Il me fallut un moment pour me rappeler le motif de ma visite. « Ma reine, j'ai songé que vous aimeriez peut-être apprendre certains des jeux de hasard que l'on pratique à Castelserre. Ainsi, vous pourriez participer lorsque les autres s'amusent. »«
Une autre fois, éventuellement, » répondit-elle gentiment.
« Si vous et moi avons envie de nous distraire, et s'il vous plaît de m'enseigner ces jeux. Mais pour ces raisons seulement. Je me suis rendu compte que les vieux proverbes sont exacts. On ne peut s'éloigner de sa vraie nature sans que le lien se rompe ou nous ramène en arrière. J'ai de la chance. J'ai été ramené en arrière. J'avance à nouveau en fidélité avec moi-même, Fitz-Chevalerie. C'est ce que vous percevez aujourd'hui. »
Je ne comprends pas. Elle sourit.
Ce n'est pas nécessaire.
Elle se tut.
La petite Romarin était allée s'asseoir auprès de l'âtre et elle avait pris son ardoise et sa craie pour s'occuper. Même cette distraction d'enfant était aujourd'hui nimbée de sérénité. Je revins à Ketriken et attendis qu'elle reprenne la parole, mais elle resta simplement à me regarder d'un air méditatif. Je finis par demander « Que faisons-nous ?»«
Rien, »
répondit Ketriken. Je gardai donc le silence comme elle. Au bout d'un long moment, elle dit
« Notre ambition, les tâches que nous nous donnons, le cadre que nous nous efforçons d'imposer au monde, tout cela n'est que l'ombre d'un arbre projeté sur la neige. Elle change avec le soleil, disparaît la nuit, danse avec le vent, et quand la neige fond, elle gît déformée sur la terre inégale. Mais l'arbre continue d'exister. Comprenez-vous cela ? »
Elle se pencha légèrement en avant pour me dévisager. Il y avait de la douceur dans ses yeux.
« Je crois, » fis-je, embarrassé.
Elle me regarda d'un air presque apitoyé.
« Vous comprendriez si vous cessiez de vouloir comprendre, si vous renonciez à vous inquiéter de savoir pourquoi c'est important pour moi, et essayez simplement de voir ce que cette idée peut vous apporter dans votre vie. Mais je ne vous y oblige pas. Ici, je ne commande à personne. »
Elle redressa le buste d'un mouvement fluide qui faisait paraître sa roide posture naturelle et reposante. Et à nouveau, assise en face de moi, elle ne fit rien. Mais je la sentis se déployer. Je sentis sa vie m'effleurer, s'écouler autour de moi. C'était un contact des plus ténus, et si je n'avais pas eu l'expérience à la fois de l'art et du vif, je crois que je ne l'aurais pas perçu. Prudemment, aussi doucement que si je tâtais du pied un pont en toile d'araignée, je superposais mes sens aux siens. Elle tendit son esprit. Pas comme je le faisais,
vers un animal précis ou pour savoir quelle créature se trouvait alentour. Dans son cas, l'expression que j'utilisais pour moi était impropre. Ketriken ne cherchait rien à l'aide de son vif. C'était ce qu'elle avait dit, simplement être, mais être une partie du tout. Elle s'apaisait, contemplait toutes les façons qu'avait la toile de la toucher, et elle était heureuse. C'était un état délicat et ténu, et je m'en émerveillais. L'espace d'un instant, je me détendis moi aussi. Je respirais profondément et m'ouvris, le vif béant. Je rejetais toute prudence, toute inquiétude que Burik me perçoive. Je n'avais jamais rien fait de tel auparavant. Le contact de Ketriken était aussi léger qu'une gouttelette de rosée qui glisse sur un fil de toile d'araignée. J'avais l'impression d'une crue jusque-là retenue et qui, soudain libérée, se précipite pour remplir d'anciens canaux, déborde et envoie des doigts d'eau reconnaître les basses terres.
« Allons chasser !»
Le loup, tout joyeux. Dans les écuries, Burik cessa de curer un sabot pour se redresser, les sourcils froncés. Sui se mit à taper du pied dans son box. Molly haussa les épaules et rejeta les cheveux en arrière. En face de moi, Ketriken tressaillit et me regarda comme si j'avais dit quelque chose. L'instant suivant, j'étais pris, saisi de mille côtés, étiré, agrandi, éclairé impitoyablement. Je percevais tout, non seulement les humains et leurs allées et venues, mais le moindre pigeon en train de volter parmi les gouttières, la moindre souris qui se faufilait subrepticement derrière les tonneaux de vin, chaque poussière de vie qui n'était pas et n'avait jamais été poussière, mais toujours un point de croisement sur la toile d'araignée de la vie. Rien n'est seul, rien n'est oublié, rien n'est dépourvu de sens, rien n'est insignifiant et rien n'a d'importance. Quelque part, quelqu'un chanta, puis se tut. Un cœur s'enfla après ce solo, d'autres voix, lointaines et vagues, qui disaient « Quoi ? Pardon ? On m'a appelé ? Vous êtes là ? Est-ce que je rêve ?» Elle me tiraillait comme les mendiants saisissent les inconnus par la manche, et je sentis soudain que, si je ne me retirais pas, j'allais me défaire entièrement comme un tricot. Je clignais les yeux, me barricadais en moi-même, puis j'inspirais. Pas une seconde ne s'était écoulée. Un inspire, un battement de paupières. Ketriken me regardait d'un air interrogateur. Je fis semblant de ne pas m'en apercevoir. Je me grattais le nez, changeai de position sur le banc. Je repris fermement mon sang-froid, puis je laissai passer quelques minutes avant de soupirer, puis de hausser les épaules en manière d'excuse. « Je ne comprends pas le but du jeu, je crois, » fis-je. J'avais réussi à l'agacer. « Ce n'est pas un jeu, et il n'est pas nécessaire de comprendre ni de faire quoi que ce soit. Il suffit de tout arrêter et d'être. » Je feignis d'essayer à nouveau. Je restai sans bouger un moment, puis me mis à tripoter distraitement ma manchette jusqu'à ce que Ketriken me regarde. Alors je baissai les yeux comme si j'étais confus. « La bougie sent très bon, » dis-je. Elle poussa un soupir et renonça. La jeune fille qui les fabrique a une perception très fine des parfums. Elle parvient à presque à recréer mes jardins et à m'entourer de leur fragrance. Royal m'a apporté une fois un de ses cierges aux chèvrefeuilles et je me fournis auprès d'elle depuis. Elle est servante au château et elle n'a ni le temps ni les moyens de produire beaucoup. Je m'estime donc privilégié quand elle m'offre de ses bougies. « Royal ?» répétai-je. Royal parlait à Molly. Royal la connaissait suffisamment pour savoir qu'elle créait des bougies. Un mauvais pressentiment me tordit les tripes. « Ma reine, j'ai l'impression que je vous distrais de vos occupations. Ce n'est pas ce que je souhaite. Puis-je prendre congé pour revenir quand vous aurez envie de compagnie ?» Cet exercice n'exclut pas la compagnie, fit ce chevalerie. Elle me regarda d'un air triste. Ne voulez-vous pas essayer encore une fois de lâcher prise? L'espace d'un instant, j'ai cru... Non? Dans ce cas, je ne vous retiens pas. Il y avait du regret et de la solitude dans sa voix. Puis elle se redressa. Elle prit une inspiration, puis expira lentement.
À nouveau, je sentis sa conscience vibrer dans la toile d'araignée. « Elle a le vif, » me dis-je, modérément, mais elle l'a. Je sortis sans faire de bruit. Je me demandais avec un soupçon d'amusement ce que penserait Burick, s'il était au courant. Ce qui m'amusait beaucoup moins, c'était de me rappeler qu'elle avait réagi quand j'avais tendu mon esprit. Je songeais à mes chasses nocturnes avec le loup. La reine allait-elle bientôt se plaindre de rêves étranges? Une certitude glacée m'envahit. J'allais être découvert. J'avais été trop négligent, trop longtemps. Burick percevait quand je me servais du vif. Et s'il n'était pas le seul? On pourrait m'accuser de pratiquer la magie des bêtes. Je bandais ma volonté et m'endurcis le cœur. Demain, j'agirai.